C'est bon?
Vous empruntez ça?
Alors bonsoir aux braves qui ont affronté la tempête de chaleur. On n'est jamais content. Il me fait plaisir, mon nom est Jean-François Nadeau, il me fait plaisir d'animer cette rencontre intime autour de ces nuits de la poésie, mais en particulier de cette nuit de la poésie 1970, dont on parlera avec vous après l'entretien avec nos invités ce soir. Je vous signale que cette conversation, ces entretiens sont enregistrés par Radio Spirale, de sorte que l'usage des micros est pour les gens qui sont ici à table avec moi est chaudement recommandé, mais aussi pour vous, même après, si on est peu nombreux, lorsque vous poserez des questions, bien vous identifier et utiliser ce micro afin que la captation soit une captation de qualité. Alors, avec nous ce soir, Jean-Marc Desjean, Carole David, Jean-Pierre Mas, et qui se joint à nous de façon impromptue, et on en est tous profondément ravis, Jean-Claude Labrecq. Alors, cette nuit de la poésie qu'on a vue grâce au documentaire que Mas et Labrecq ont co-réalisé ensemble et diffusé, je pense, en 1971, après donc cette captation, si j'ai bien compris, ça origine d'une vision de la poésie de l'année précédente, où un certain nombre d'activités sont données à ce qui est à l'époque comment ça s'appelle, la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui est la Bibliothèque nationale pendant longtemps, on l'a connue comme ça, et c'est une recréation de cet événement-là qui a été capté. Moi, j'aimerais vous entendre sur quel est l'avènement. On dirait que ça correspond à une sorte de pinacle, il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui sont là, on a peine à imaginer aujourd'hui qu'une soirée comme celle-là, commander d'autant plus, puisse réussir à attirer autant de gens et créer un événement dont on parle, somme toute, 40 ans plus tard encore, avec beaucoup de bonheur.
Vas-y, mon Jean-Pierre.
Ben moi, j'aimerais parler en deuxième après toi, parce que c'est Jean-Claude qui a eu l'idée.
Bon.
Jean-Claude avait assisté à la Bibliothèque Saint-Sulpice, justement. Il y a eu 7 ou 8 soirées organisées par Gaston Miron. Alors, c'était un jour par semaine, je pense que c'était le mercredi, 7 semaines consécutives. Il y avait un poète et un chansonnier, et après, discussion avec les gens. Alors, Jean-Claude avait assisté à au moins une de ces soirées, et il trouvait ça dommage et triste qu'il n'y ait aucun souvenir, parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Alors, l'année suivante est arrivée une merveilleuse chose. L'ONF, au mois de décembre, avait des sous qu'il fallait dépenser avant le 31 mars.
Ça s'est pas vu de pluie.
À l'époque, ça se voyait assez fréquemment. C'est que le 1er avril, c'est une autre année fiscale, et l'argent que ne dépensait pas l'ONF dans ses films allait dans le fonds consolidé. Jean-Claude, à ce moment-là, a pris le taureau par les cornes et la poésie par les ailes. Et il a fait la proposition de la Nuit de la poésie. Et, merveilleux hasard également, le directeur de la production française, c'était Jacques Godbout, l'écrivain, qui était tout à fait ouvert et favorable et qui nous a beaucoup épaulés dans le projet. Donc, tu pourras en parler, ça s'est décidé en 3 ou 4 jours. Hein. On est en décembre et, selon les règles du jeu, il fallait que tout l'argent du tournage soit dépensé avant le 31 mars. Alors, c'était une journée. Et c'est pourquoi c'est le 27 mars. Bon. Et pourquoi aussi le 27 mars, c'est assez curieux. C'est un vendredi saint. On organise ça en vitesse, à la sauvette, à la dernière minute. Il n'y a aucune salle de théâtre de libre. Et le Jésus, salle qui appartient à des jésuites, le vendredi saint, on ne joue pas au théâtre. Sûrement inspirés par les muses, les jésuites ont accepté qu'on utilise le Jésus, le Vendredi Saint. C'est pour ça que ça a été fait là. Alors, je vais juste ajouter une chose. Tu parlais, Jean-François, de vision de poésie. Jean-Claude et moi, pour faire la nuit de la poésie, on n'est pas parti de la littérature, on est parti du cinéma. Et j'avais prendre 2 minutes pour faire une capsule pour mettre les choses en place. L'avènement du cinéma direct a permis d'aller tourner les gens chez eux, dans leur contexte, sans les conditionner. Il y a le film de Pierre Perrault qui est magnifique, Pour la suite du monde, que nous connaissons tous. Hein? Ce n'est pas des entrevues, et Perrault disait magnifiquement, quand on laisse parler les gens entre eux, il y a une conversation qu'on ne dirige pas, et les gens parlent vraiment de ce qui les préoccupe avec leur langage, leur émotion et leur gestuelle. Vous avez tous vu le film? Bon. Mais c'était quand même les cinéastes qui avaient le contrôle. C'est Perrault qui faisait le montage. C'est Vernandol qui l'a fait, mais c'est Perrault qui a fait tout le tournage. Bon. L'étape suivante, ça a été que les citoyens fassent des scénarios. Et il y a Fernand Dansereau qui a fait des grandes choses, entre autres tout le temps, où les gens faisaient le scénario, l'équipe de l'ONF était à leur service. Ils faisaient le montage selon leurs indications, et c'est vraiment des gens qui étaient non seulement des participants, mais qui étaient également les auteurs du film. L'étape suivante, c'était qu'on s'est rendu compte, et c'est assez angoissant, que l'imaginaire des gens est assez limité. En tous les cas, il est très répétitif. Et nous, on s'est dit, on va aller chercher l'imaginaire d'artistes, des poètes. Et là, on est sûr que ça va être beaucoup plus explosif, expansif, ça va être autre chose, on ne sera pas dans le petit quotidien remanié, parce que finalement, tous ces projets-là, il y avait à peu près 14 ou 15 patterns qui se répétaient constamment. Alors là, c'était les poètes qu'on a tournés. Bon. Je veux dire ceci, c'est qu'il y a bien des gens à l'ONF, tu t'en souviens à l'époque, qui ont dit, mais vous allez vous casser la gueule, les poètes sont capables d'écrire, ils ne sont pas capables de lire. Parce qu'à l'époque, il y a bien des gens qui ont vu des poètes pour la première fois dans le film. Moi, je connaissais les textes de Giguère, de Pilon et d'autres, mais je ne les avais jamais rencontrés. Et on a eu même la surprise de voir qu'il y a des poètes qui n'ont pas l'air de poètes. Bon. Alors, physiquement...
Encore, faudrait-il savoir de quoi ça a l'air?
Exactement. Là, il y a l'air une parole. Alors là, il y a des gens qui ont dit, mais faites comme, par exemple, poème et chant de la Résistance, engager des comédiens, ce monde-là ne sait pas lire. Ça nous a été reproché. Donc, c'était une audace de notre part de prendre le risque de tourner des poètes en gros plan, sans faire de coupe inutile. Et ça, je rends hommage à Jean-Claude qui venait de tourner 66, qui est un film d'un grand virtuose. Ouais. Et on attendait une espèce de 66 de la poésie, alors qu'on a vu un film...
Sauf
presque
que dans 66, ça parle pas. Et là-dedans, ça parle.
C'est ça.
Le temps.
Alors, c'est pour vous... Là, je me tais parce que je suis parti. Oui. Mais c'est pour vous dire que nous, on partait du cinéma et non pas de la littérature. Et ça n'a jamais été notre intention de faire une anthologie, encore moins un panthéon.
Mais Jean-Claude Labrecque, qu'est-ce qui vous attirait profondément dans cette parole qui touche un peu, on a l'impression, à une sorte de paroxysme avec cet événement-là?
Mais revenons à 69. Cette semaine-là de poésie qui était organisée aussi par Miron, mais aussi avec Claude Infini, qui était un être assez fascinant. Et dans ces soirées-là, un soir c'était des thèmes, c'était la poésie disque, un autre soir c'était la poésie panneau réclame, enfin bref. Il y avait un soir, vous avez assisté, qui était très, très, très étonnant. Et c'était organisé par Miron, Raoul Duguay, Georges Dor. Et il avait invité ce que Miron appelait les solitaires. Alors ça voulait dire Langevin, Gauvreau, en fait, Michel Allende. Et Miron était devenu une espèce de MC. Il leur faisait la moitié de la présentation. C'était comme une entrevue. L'entrevue avec Gauvreau et tout ça. Et c'était fascinant. C'était extraordinaire. On avait envie de les écouter. Et le restant de la soirée, c'était eux qui récitaient leur poème. Alors, c'est à partir de là que je me suis dit, hey, Seigneur, qu'on fait donc pas notre métier. On devrait être là, tourner ça. C'est extraordinaire. Je connaissais pas ça. Alors, à partir de ce moment-là, avec Jean-Pierre, on les a tous rencontrés. Et je ne sais pas qui a lancé quelque part dans une soirée, mais si on ferait ça toute la nuit, certainement, il n'y aurait pas de problème, on va vous organiser ça. Alors l'idée, c'était que l'ONF devienne un petit peu les commanditaires. Et quand ça a été réglé, c'est qu'on a structuré la salle, les lumières, le système de son, la régie, qu'on a vu, qu'on a demandé à tous les poètes de participer, il y avait des cachettes, c'était vraiment très organisé. On s'est comme retiré, c'est-à-dire comme on n'a pas parlé. Parlé, on était là. On disait qu'il y avait une vie de poésie. Jean-Pierre et moi, on est partis. Un soir, on s'est divisé la ville en deux, puis on a donner des affiches à tout le monde. T'sais, on a vraiment...
C'est des affiches qui faisaient la publicité, ça. Seulement.
Oui, seulement, oui. Mais il y avait eu des reportages dans les journaux assez présentes avec... avec Miron, avec toutes les grandes vedettes, les grandes têtes.
Miron avait invité Réginald Martel, Gérald Godin aussi.
Gérald Godin aussi, beaucoup. Et alors, c'était tellement secret que dans la journée qui précède, on était à l'ONF pour ramasser, parce que ça a pris une tonne d'équipement. Quelqu'un à l'ONF qui a dit « Vous devriez tourner ça la nuit de poésie, ça a l'air bon, vrai. » On va s'en occuper, vous allez voir ça. Alors, c'est un petit peu ça, c'est la curiosité, c'est l'amour des gens.
C'est votre curiosité, mais de là à avoir, je sais pas, 4000, 5000, 6000 personnes, je ne sais pas combien il y avait de monde là, mais ça a l'air absolument terrifiant. Il y a du monde qui sont refusés.
On va donner la parole au poète.
Bien sûr.
Je veux juste dire ceci, que nous, on savait que des poètes, pour en parler, qui disent le texte devant des gens, c'est autre chose. Ça les inspire, ça les transporte. Et parce qu'on aurait pu tourner ça en studio de l'ONF sur fond noir. Bon. Et on espérait avoir 200 ou 300 personnes. Et on s'est dit, ouais, c'est grand, le Jésus, si on peut au moins remplir la moitié, on va demander aux gens de se tasser dans les premières rangées pour que les poètes se sentent entourés et puis appuyés. Et on est venu 5000, mais ça, on n'a jamais prévu ça. Là. Il y a le film qu'on avait organisé, contrôlé, mais l'événement, ça nous a complètement échappé. J'aimerais entendre des poètes.
Il a fallu aussi ouvrir un circuit fermé, puis ça, c'était rare à l'époque, le truc de circuit fermé dans la cafétéria du Jésus, où il y avait quasiment autant de gens dans la cafétéria, dans le hall, autant de gens que dans la salle du Jésus.
Hein, donc, c'est amusant parce que on nageait là, dans la technique, dans les affaires nouvelles. Comme par exemple, on parle de 70, là, on ne parle pas de nos arrière-grands-pères, là. On ne possédait pas de pellicule négatif en 16 mm. Et la pellicule qu'on avait, c'était une pellicule positive et extrêmement faible en ISO. Et il aurait fallu éclairer la place, la suréclairer, pour tourner ça couleur. Et Kodak venait de mettre au point une pellicule qui était la même qualité que le Eastman couleur 35 en 16 mm. Alors ça, c'était nouveau aussi. Après ça, ils avaient. Claude Pelletier avait commandé les premières caméras vidéo. Vous savez, ceux qu'on regarde les images de ces caméras-là, là, ça a l'air de tourner avec un fond de bouteille de 10 onces. Là, tout le monde est un peu flou, c'est pas bien net. Là. Mais c'est les premières qu'on avait. Donc on a pu faire comme un espèce de circuit fermé. Et on était ravis de ça. Alors donc on poussait là, sur tous les fronts en même temps pour avoir. La chose la plus moderne, parce qu'on avait à cette époque-là. Puis c'est emmerdant de tourner en 16 mm, ça a des bobines de 10 minutes. Il fallait synchroniser avec une lumière, enfin mettre ensemble le son et l'image. C'était constamment. Mais il y avait un phénomène qu'on s'est aperçu, c'est que le public faisait corps avec la poésie et les poètes. Et les cinéastes aussi, parce que quand j'avais filé un chargeur, une bobine de 10 minutes, je l'arrachais de la caméra, je le donnais à mon voisin et je ne m'en occupais plus. Lui s'occupait de la passer aux assistants qui chargeaient les caméras. Et les assistants me redonnaient un chargeur qui arrivait par une autre voie.
Mais Jean-Claude Labrec, cette chose très moderne que vous vouliez faire au plan technique, j'aurais envie de demander à Carole David si, au fond, elle ne semblait pas très ancienne par rapport au médium même qui était utilisé, qui était là premier, qui était la voix, la parole, la poésie, qui semblait éclater littéralement.
Mais je voudrais dire aussi qu'on s'était donné une moto, je peux dire. On s'est dit qu'il faudrait que la caméra écoute la parole et qu'elle soit calme et qu'elle écoute. Et c'était ça. Et on n'a pas fait un film sur l'événement, mais bien sur le texte. Et la parole. On s'était dit ça, là.
On va vous écouter.
Ben, vous parlez d'événements. Moi, en tant que... Bon, évidemment, l'expérience personnelle là, se mêle aussi à l'expérience historique, là, c'est évident. Alors, pour les poètes de ma génération, moi, je peux dire que j'étais spectatrice. Ça va s'arrêter là pour l'anecdote. Là. J'avais 15 ans à l'époque, et c'est le Vendredi Saint, Et il fallait que je rentre à minuit. Donc, c'est sûr que j'avais appris qu'il y avait une nuit de la poésie parce que je fréquentais le Jésus et j'allais voir les pièces de la nouvelle compagnie théâtrale, donc de la NCT. Et on était accueillis à la NCT plusieurs fois par année. Et c'est comme ça qu'on avait appris, parce que vous posiez la question tantôt. Ouais. Et c'est comme ça, par des circuits quand même assez limités. On s'intéressait le moindrement à la littérature, si on avait envie de poésie et tout ça. Donc, on connaissait déjà les canaux à partir desquels, il n'y avait pas Facebook, là, mais on avait quand même des canaux pour communiquer, puis se communiquer les événements. Donc, quand on parle de la question de la voix, il y a aussi la question de l'événement. Moi, c'est ça qui me fascine le plus, c'est que cet événement-là, évidemment, aujourd'hui, on a essayé de le recréer, mais il ne pourrait jamais être recréé parce qu'à cause de toutes les conditions, on a parlé de conditions politiques, de toutes sortes de conditions technologiques, on pourrait penser à toutes sortes de choses. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, de festival, comme je dis aujourd'hui, de festival hédoniste, financé par, je ne sais pas, le grand capital.
Et même prendre... le petit.
Et même le petit. Donc, surtout, donc c'était une espèce d'happening, finalement. Là, si on repense à ça aujourd'hui, tous ces gens qui se pressent à la porte, qui ne sont pas acceptés, il y a deux aspects là-dedans qui sont fascinants. Il y a ça, puis il y a aussi la parole poétique. Là, j'y reviendrai plus tard, mais il y a cette chose, cet événement-là qui est un happening parce qu'on n'a pas le droit jamais de rien faire dans la rue. Tout est toujours, on est corseté complètement. On est en 70, mais il faut penser qu'on vit encore dans un climat très, très austère. Les cégeps viennent d'être créés, mais on n'a pas beaucoup de liberté. Donc, se retrouver comme ça dans la rue un vendredi saint, c'est très emblématique, c'est très bon. Et comme ça, on peut faire ce qu'on veut, on peut attendre à la porte, on entre, c'est un bordel quasi total. On n'a jamais connu ça parce que quand on va à la NCT, on est accueilli par la mère supérieure qui est là, donc qui dirige la NCT, qui nous dit de ne pas parler, qui nous envoie à nos sièges. Alors nous, on arrive là et on trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment le free-for-all, comme on dit. Donc on s'en va écouter des poètes dont on a entendu parler, qu'on a déjà vu. On a déjà vu Miron là, qui se promène au Carré Saint-Louis, tout ça, là, puis qui déclame des poèmes devant tout le monde. Donc c'est la partie événement, mais happening, c'est une des parties la plus fascinante et c'est ce qui, je suis contente d'entendre ça parce que je connais pas toute la petite histoire, mais c'est en lien vraiment avec le cinéma direct, un cinéma, évidemment, auquel on avait été initié, qu'on connaissait, qu'on adorait parce que ça parlait du vrai monde et tout ça. Et là, on y convient à un événement justement qui répond à tous nos souhaits.
Est-ce que cette parole-là existe aussi, cette parole poétique-là, ça n'existe pas aussi dans la mesure où elle est tressée très finement à une parole politique à ce moment-là? Ça correspond, il y a plusieurs moments forts dans le film, peut-être Jean-Marc Desjean,
Juste avant de répondre à la question, j'étais allé avec un de mes amis, évidemment, et qui était toujours en retard. Donc, quand on est venu pour rentrer, il n'y avait plus de place. Mais comme j'avais fréquenté pendant 3 ans le Collège Sainte-Marie, je savais par où rentrer et m'infiltrer. Et je trouvais donc que je correspondais à l'idée même de la nuit de la poésie, c'est-à-dire de me faufiler de côté, marginalement, si vous voulez. Pour répondre à la question politique, je dirais que c'est à la fois, bien sûr, le contexte fort de la nuit et probablement aussi son contexte le plus faible. Parce que je me souviens de poètes, par exemple, de très jeunes poètes qui ont participé à la Nuit de la Poésie. Je pense à Roger Desroches, par exemple, qui était très jeune à l'époque, et qui avait lu, si je me souviens bien...
De François Sagan.
Indélébile, et qui ne faisait pas du tout de texte politique. Et je me souviens que ça s'était très, très mal passé parce que c'était pas du tout politique. Ce qui fait que le contexte politique permettait d'une certaine façon l'événement, mais en même temps annulait certains discours qui allaient devenir la poésie qui allait se faire dans les années 80, 90, 2000, etc., mais taisait aussi cette poésie-là. Ce qui fait qu'on peut regarder ce contexte-là à la fois de façon très positive, c'est-à-dire le contexte politique qui donne cette chance ou cette possibilité d'émerger toute une nuit de temps avec des poètes. Je reviendrai tantôt par rapport aux vedettes de cette nuit de poésie, que ce soit Claude Péloquin, tout le monde attendait, c'est pas lui d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est lui qui finit la nuit de la poésie, qui venait d'écrire Lindbergh, qui venait de participer au disque, au premier disque rock de Robert Charlebois. Je me souviens de sa aide, comme on dit, sa l'aide, Raoul Duguay, d'être accompagné par l'infonie ou par une partie de l'infonie. C'était beaucoup le entertainment qui était très vedette. Alors, faut faire très attention quand on parle de la dimension politique. Oui, c'était très politique. Vous aviez qu'à écrire un assez bon poème, souvent mauvais, où il y avait le mot Québec dedans, et c'est sûr que vous deveniez une vedette dans l'instant. Hein? Alors donc, je reviendrai là-dessus. Je ne pense pas que ce serait très positif.
C'est intéressant aussi de voir qui est une vedette, effectivement, à ce moment-là. Et ce qu'on retient aujourd'hui du film, on l'a noté à juste titre, je pense, à l'époque, Miron n'a pas son premier recueil, il n'est toujours pas publié. D'ailleurs, vous avez dû reprendre des prises parce que le son a été coupé au moment de la captation de deux des trois poèmes de Miron. Vous les avez réenregistrés ensuite, puis là, il y a un anachronisme de l'histoire parce qu'il a son livre. Il a maintenant L'homme rapaillé sous la main, alors qu'il ne pouvait pas l'avoir au moment de l'enregistrement d'origine. Et donc, des personnalités comme Louis Geoffroy, Pierre Cadieux, Raoul Duguay, Walter Boudreau, tout ça, toute l'infonie, qui sont les grandes vedettes pour le moment, l'histoire les confine plus en retrait par rapport à aujourd'hui. Par exemple, on voit Miron plus grand qu'il ne l'était probablement au moment de la captation. Qu'est-ce que vous...
Je me souviens pas, Jean-Claude, si... Une des premières interventions de Gaston Miron, d'ailleurs, il n'a pas été hué, ou en tout cas, ça n'a pas très, très bien fonctionné dans sa première prestation. La deuxième, ça a bien fonctionné, mais la première. Donc, la dimension politique était comme... C'était pas toujours évident, cette espèce de contexte politique ou de cette énergie politique. Je suis pas sûr que les gens en voulaient à ce point-là, mais c'est vrai qu'en même temps, et paradoxalement, ce qui était politique... fonctionnait plus facilement.
Il n'y avait pas une décision qui avait été prise. Je me rappelle que dans des réunions, on disait, ça s'appelle une nuit de poésie, essayons de rester le plus possible à la poésie, essayer de ne pas se faire prendre par la politique et tout ça. Tu sais, il y avait des interventions lors des premières réunions et quand c'est parti. Hein. J'ai un peu l'impression
que... On avait invité les poètes. Mais c'est eux qui choisissaient leurs textes. Et c'est vrai qu'il y avait des textes politiques, mais elle veut dire, tu peux pas dire que Centre Blanc de Nicole Brassard, c'est très politique.
Non, mais ça marchait pas trop fort.
Oui, mais il y avait quelque chose avant qui s'était produit qui s'appelait Poèmes et chants de la résistance.
Oui. Oui.
Ah, c'était pas rien, ça donnait d'emblée une orientation, une couleur à la soirée. Et puis il y a toute l'association aussi poésie et chansons, avec laquelle, évidemment, on est toujours en débat depuis toujours. Est-ce que la chanson est poétique ou la poésie est chanson? Donc, il y a toujours, aujourd'hui, bon, on parle de slam, etc., de poésie. C'est le même problème, hein? C'est l'oralité par rapport au texte écrit. Donc, je pense que dans la nuit, on voyait déjà ça. C'était là, toutes ces questions, avec lesquelles, on est encore aujourd'hui, on débat sur ces questions-là aussi. Donc, je pense que dans la nuit, en tout cas, il y avait cette dichotomie entre les gens qui intervenaient, il y avait le côté entertainment, de Duguay, l'infonie, etc. Puis il y avait ces textes-là qui étaient, un peu plus difficiles. Bon, comme Gauvreau, par exemple, là, c'est sûr que lui aussi s'est fait huer.
Il finit par triompher,
mais difficilement. Pas donné,
mais je voudrais dire une chose, que le côté entertainment n'a jamais fait partie de nos préoccupations dans le film.
Non,
c'est sûr, mais
c'est une lecture qu'on fait par la suite. D'abord, les poètes, c'était une démocratie
fragile,
des années 70.
Comme
moi, je voulais que Rina Lanier soit invitée, on a dit non, elle est trop catholique.
On comprend, là, à cause de l'époque. Là.
Oui, non. Et on voulait... Gaston Miron voulait inviter des poètes anglophones de Sherbrooke.
Ah.
On a dit non. Alors, c'était...
Ça aurait été dangereux.
Vote majoritaire. Moi, je voulais inviter Desrochers. On a dit, c'est du folklore, on n'en veut pas. Alors, on...
Ou Leonard Cohen, par exemple, personne n'a pensé à Leonard
Cohen. Cohen, le nom n'est pas sorti, mais là, j'en nomme trois. Et il y en a qui ne voulaient pas venir, justement, pour des raisons politiques, mais qui nous ont demandé de faire un discours. Michel Van Skendel. Il est monté sur scène.
Oui, je me suis
dit. Et puis, il a fait un discours. Et tu parlais, on n'avait pas beaucoup de pellicules. Et il faut dire que les écrivains, c'est merveilleux, vous avez un crayon et une page blanche. Le cinéma, il y a des conditions, puis c'est pas un reproche que je fais, au contraire, on vous envie. Mais on avait des magasins de 10 minutes. On avait trois caméras. Ça prenait à peu près 5 minutes pour qu'un magasin parvienne à la caméra et le charger. Donc, on avait des walkie-talkies, et il y en a qu'on a manqué. Carrément, parce qu'on essayait de ne jamais avoir plus que deux caméras en même temps pour nous permettre... Bon. Et on avait aussi à peine 4 heures de pellicule. Hein? Quelque chose comme ça.
Je pense qu'on avait plus quand même.
Ouais. Ben Baudet,
je ne l'ai pas dit, j'en ai pris plus.
Notre producteur en avait caché dans son coffre arrière d'auto. Mais,
Vrai, il nous en avait apporté une boîte.
Ouais, c'est ça. Alors, on savait que, premièrement, qu'on n'avait pas toute on n'avait pas suffisamment de pellicule pour tout tourner. Et ce qui est dommage, c'est que le vidéo, c'était la nuit enregistrée dans sa totalité. Et il y a quelqu'un qui l'a jeté quelques années après. Alors, même si la qualité laissait à désirer, ça aurait été extraordinaire d'avoir la totalité de la
Est-ce que le quelqu'un est un vrai anonyme ou c'est parce que tu tais son nom?
Non, je n'étais pas son nom. C'est qu'à l'ONF, il y avait dans le sous-sol.
Parce qu'un assassinat est vite organisé.
Une chute. Ouais.
Non, mais,
je vais te
raconter quelque chose après. Jean-Marc, quand, évidemment, un film était fini, il y avait des boîtes de rocheuses qui restaient, des outs là, qu'on n'utilisait pas. Et on descendait ça dans un grand corridor. C'était pêle-mêle. Et un jour... Allô, je suis à l'UQAM et Marcel Larrivé dit on m'a donné des boîtes de films pour synchroniser, pour apprendre aux étudiants à synchroniser. Et c'était les chutes de la nuit 80 et c'était Anne Hébert. J'ai été chercher toutes les boîtes, mais celle de 70, elle m'a échappé.
Mais vous savez que ça a été la même chose à Radio-Canada pendant des années, hein? Même toutes les émissions y ont passé carrément. Alors, c'était une pratique, là. C'est pas pire à l'ONF qu'ailleurs. C'est un sens de la conservation qu'on n'a pas toujours encore pour bien d'autres questions aussi.
Moi, j'avais écrit une grande lettre à l'office de garder toutes les chutes, oui, bien important, puis les déposer à la Cinémathèque. Parce qu'ils avaient dit, on fait le ménage, on jette telle chose, avez-vous des commentaires?
40 ou 50 ans plus tard, ça donne la mémoire des anges.
Alors, j'ai pas eu de nouvelles, mais le résultat, c'est qu'ils ont reçu de l'université pour faire pratiquer.
Là, c'est la Cinémathèque. J'ai tout récupéré, les chutes de la nuit 80.
C'est des petits miracles comme ça, des fois.
Moi, j'aurais envie de revenir sur cette façon qu'ont peut-être les gens de s'approprier les mots des poètes à ce moment-là, parce qu'on voit des réactions très, très fortes dans la salle, notamment pour des questions politiques, mais pour d'autres questions aussi. Couvreau, on peut pas concevoir que les gens réagissent favorablement à la fin pour des questions politiques. Mais quand tu évoquais, par exemple, la mémoire de prisonniers, qu'on appelle des prisonniers politiques à l'époque, c'est le cas de Pierre Vallière, de Charles Gagnon, de Pierre-Paul Geoffroy. Moi, Vallière me racontait déjà qu'une dame lui avait dit « Ah, c'est vous, madame, monsieur Vallière Gagnon. Je suis tellement heureux de vous rencontrer. » Parce que partout dans les médias, on parlait à l'époque de Vallière Gagnon, qui étaient emprisonnés ensemble. Alors, il n'y avait pas une identité physique réelle pour ces gens-là. Et là, tout d'un coup... Les mots de cette soirée-là, j'ai l'impression, font éclater une espèce de ballon qui est contenu dans les gens et qui n'ont pas de mots pour l'exprimer. Je ne sais pas dans quelle mesure la poésie, pour un rare moment, dans cette période-là, rejoint une situation populaire précise. Peut-être que je me leurre ou c'est...
Ben, moi, je dirais peut-être que c'est en partie pour des mauvaises raisons, malheureusement. C'est toujours à cause de l'événementiel, là, de cet aspect-là. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est d'abord Miron, et puis aussi Michel Lalonde avec Speak White. Je pense que ces deux personnes-là, qui sont quand même deux poètes majeurs là, de notre littérature, On peut dire qu'ils ont été réduits justement à cause de cet événement-là. Réduits, c'est pas péjoratif, là. Bon, à quelque chose de comme le reste aussi de la nuit, qui au départ les intentions sont pas ça, mais il reste qu'il y a une relecture. Bon, il y a un produit fini, on connaît tout ça, là. Donc, on peut dire par exemple que Michel Lalonde est la femme d'un seul poème, alors qu'elle a écrit d'autres poèmes dans sa vie. Et donc, c'est comme le Vallière-Gagnon, bonjour, là, mais c'est la même chose pour Michel Lalonde, c'est Speak White. Alors, c'est la femme d'un seul poème, et puis Miron, c'est l'homme d'un seul recueil de poésie.
Dans son cas, effectivement, il n'y en a pas eu d'autres.
Il n'y en a pas eu d'autres. Mais
ouais.
Il y a eu Courte Pointe, ouais, et ouais, puis il y a d'autres poèmes qui sont parus récemment, là, grâce au travail de Pierre Neveu puis de Marie-André Baudet. Et donc, ils ont, c'est un peu comme Vallière-Gagnon et les prisonniers politiques de cette époque-là qui ont été, je dirais pas, on peut pas dire victimes, j'aime pas le mot victime, mais qui ont un peu été sacrifiés en quelque sorte là à cette cause-là. Donc la poésie aussi, comme moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me frappe, c'est la poésie surtout de Michel Lalonde, son Speak White qui a été ensuite, bon, Falardeau-Poulain en ont fait un film, bon, un court-métrage. Donc, il a été tellement repris maintes et maintes fois à toutes les sauces, dénaturé, que Lalonde posait un geste, moi, je trouve, qui est vraiment, c'est une parole résistante, et puis vraiment, je trouve que c'est très légitime de sa part. Elle en a interdit la publication dans la dernière anthologie Maillot-Neveu, parce que ce poème-là lui a complètement échappé. Et je pense que c'est le cas de certains poètes dans la nuit de la poésie, c'est que leur poésie, finalement, un peu comme celle de Miron aussi, heureusement qu'on relit aujourd'hui, je souhaite la même chose pour Michel Lalonde, là, qu'on relit aujourd'hui avec un œil différent, c'est que les poètes ont perdu complètement, certains d'entre eux, contrôle là, sur ce qu'ils avaient écrit.
Est-ce que c'est pas le propre de toutes les œuvres d'être vivantes et d'échapper à leur
poésie? Ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire, pour surtout les poètes qui, bon, on a jugé, mais c'est la lecture, on n'a pas de contrôle là-dessus, là, qu'ils avaient une parole politique, hein, qui est, pour moi, Gauvreau est autant politique là, que Gaston Miron, et même, bon, davantage, c'est une position esthétique de toute façon, là, mais c'est dommage pour certains d'entre eux, et surtout, moi je dis toujours, pour Michel Lalonde, c'est vraiment dommage, donc ça a été, bon, ils ont été extraits finalement de leur œuvre, donc c'est ceux qui ont perdu le contrôle, bien tout le monde perd le contrôle de son œuvre, mais quand c'est dans une direction, c'est ça qui est dommage, là. Ça dénature complètement, parce que la poésie est plurielle, hein, c'est un travail sur la langue. Je ne pense pas que Miron ou Lalonde travaillaient leurs poèmes dans un sens particulier, là. Donc, ce sont de vrais poètes, là. Donc, c'est dommage que ça en soit réduit à une seule parole, là.
Jean-Marc Desjeunes?
Bien, ce que dit Carole est tout à fait vrai, puis on pourrait reprendre ce que je soulignais tantôt par rapport au divertissement, à l'entertainment, au spectacle, avec Claude Péloquin, Dedo, vous vous rappelez de ça, donc Raoul Duguay avec ses culottes courtes, puis bon, etc., etc., ou Paul Chamberlain avec son jumpsuit vert et son cœur rouge, avec son tigone qui fait part, bon, pour souligner les phrases punch de ses poèmes. Bon. Donc, ce côté spectaculaire, c'est comme si, en fait, il y avait d'un côté, et ça, vous en étiez pas responsable, une dimension spectaculaire, et de l'autre côté, un but. C'est-à-dire donner la parole au poète dans des circonstances X, et j'ai l'impression que la salle, d'une certaine façon, était divisée en deux, et je suis très content qu'on revienne sur la performance et les difficultés de Gauvreau. Parce que là où il y avait quelque chose de politique, c'était bien chez Gauvreau, parce que quand il se fait attaquer pendant qu'il lit, j'ai vu La nuit de la poésie l'an passé, donc je l'ai assez bien fraîchement en mémoire. Il attaque les gens qui l'empêchent de parler en disant « ça, c'est ça qui est terrible dans un État, c'est quand on empêche les gens de parler ». Et donc, son poème, qui a pas de l'air du tout politique, mais sa présence et son choix esthétique l'étaient terriblement. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné auprès du public, c'est que des grands poètes comme Gauvreau ont réussi à politiser, mais autrement, c'est-à-dire avec un grand P et non pas un petit P, genre PQ, je sais pas trop quoi. Donc, avec un grand P, on réussit à politiser une présence sur scène, un choix esthétique, etc., ce que beaucoup de poètes réussissaient pas à faire. Et quand j'ai vu La Nuit de la Poésie l'année passée, c'était avec des étudiants de maintenant au Cégep. Et ce qui fait le plus, ce qui est le plus daté, ce qui est le plus, que ce soit Raoul Duguay, même si ça a de l'air flyé, ça marche pas du tout. Mais ce qui marche, ce sont les bons poèmes. Et ça continue à marcher. Et les bons poèmes de ce soir-là ne sont pas nécessairement Québec. Ils sont comme Gauvreau, et ce sont des vrais poèmes. Et on aura eu beau essayer, peu importe la lecture, le montage, peu importe, on aura eu beau essayer de politiser, ce qui ressortira toujours, c'est l'écriture, c'est cette capacité esthétique et la valeur esthétique des poètes et des poèmes qui étaient là.
Gauvreau, je pense, termine sa prestation en disant « Vive Québec, mais vive l'universel ». Hein? Et donc, c'est cet aspect universel-là qui conduit, au fond, ce qui nous reste de cette soirée-là. À quoi ça nous mène aujourd'hui, cette nuit-là? Il y a eu d'autres tentatives qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Quel est le rapport qui a changé? Est-ce que ça devrait encore fonctionner? Qu'est-ce qui fait que ce moment-là est si particulier par rapport à la suite ou les tentatives qui ont été faites pour donner une sorte de second souffle à un événement pareil?
Moi, je suis pas d'accord. Il y a d'autres nuits qui ont fonctionné. C'est que c'est la plus spectaculaire.
Elles sont différentes, en tout cas.
Celle-là, c'est la plus spectaculaire. Ça, il n'y en a aucune qui paraît... Bon. Il y a des conditions sociopolitiques à ce moment-là qui font que c'était une époque. Il y a aussi que j'ai regardé la nuit dimanche et il y a vraiment des têtes. Les gens ont des têtes dans le film. Il y a non seulement des écrivains, mais il y a des têtes. Il y a des gens qui passent l'écran comme une balle. T'sais. Alors que moi, je pense que littérairement, la nuit 80 est plus forte. Et la nuit 91 aussi, littérairement. Sauf que ces deux nuits-là sont beaucoup moins spectaculaires et il y a des poètes qui ont beaucoup moins, qui font beaucoup moins... Gauvreau, c'est une pièce. Michel Lalonde, c'est une pièce. Duguay, c'est des gens qui dévorent l'écran. Mais il y a de très grands poètes. C'est Paul-Marie Lapointe, là. C'est pas une grande présence à l'écran. Mais je veux dire, quel poète! Et moi, je trouve ça extraordinaire de lire son texte dans ses yeux quand il le lit. Mais je veux dire, c'est pas ça qui... C'est ça, c'est moins tentaculaire, là. Mais ça veut pas dire que c'est moins nécessaire et que c'est moins durable. Alors, les autres nuits, tu sais, la nuit 80, il y a Anne Hébert. Il y a Giguère. Il y a... il y a Langevin qui ne pouvait pas venir. Giguère, qui avait peur de lire en 70, qui a lu... Il y a Van Skendel qui était comte, qui est là, mais il y en a plein d'autres. Il y a Marie Huguet, tout ça. Alors, c'est des morceaux de poésie, ça aussi, là.
Moi, je me suis amusée à réfléchir sur les lieux où s'étaient déroulées ces fameuses nuits, 70, 80, 90, et je trouve ça, puis celle qui va se tenir samedi prochain. Et je trouve ça assez particulier. Je trouve que c'est vraiment une espèce de métaphore filée là, de notre société du spectacle. Alors, en 70, à l'église du Jésus, bon, on est encore vraiment là. Et ensuite, c'est à l'UQAM. Et puis, c'est parce que c'est dans une ancienne église aussi, c'est l'église Saint-Jacques. Puis en 90 aussi. Et puis là, cette année, ça va être... dans la salle de spectacle de les anciens quartiers généraux de Juste pour rire. Alors du festival Juste pour rire. Alors c'est le cabaret Juste pour rire et je parlais tantôt, moi c'est ça qui me fascine là, c'est l'aspect festival
brasserie à l'origine.
Oui, je sais, c'était une brasserie, la brasserie d'art, je pense, ou quelque chose comme ça. Pas d'art, non, c'est une autre. Et c'est ça que je trouve ça fascinant parce que je trouve que ça fait vraiment une métaphore filée là de le rapport justement à l'événementiel, au festival et pourquoi ça fonctionne. Je pense qu'il y a une réponse en tout cas quand on se penche sur les lieux où ça s'est déroulé. Mais une des raisons pour lesquelles, bon, après la nuit de 70, je pense qu'une des retombées les plus importantes de cette nuit de 70, c'est vraiment l'institutionnalisation de la poésie québécoise et le début de son institutionnalisation, donc d'abord par la publication de cette anthologie de Maillot et de Laurent Maillot et de Pierre Neveu, qui va rassembler évidemment la poésie québécoise des origines à nos jours, donc 80, et la republication, revue augmentée aussi de cette anthologie, et la dernière publication aussi, là, récemment, d'une mise à jour complète avec l'ajout d'une cinquantaine de poètes. Et je pense qu'une des retombées importantes de cette nuit-là, c'est vraiment la réflexion sur... il y a la nuit comme ça qui a l'air un peu en désordre et tout ça, mais il y a aussi, à partir de là, une réflexion sur l'histoire de notre poésie, une mise en forme, parce qu'il y avait eu des anthologies avant qui avaient été faites, entre autres celle de Guy Sylvestre, qui était horrible. Quand on étudiait au cégep, on était pogné avec l'anthologie de Guy Sylvestre, Dieu et son âme, ou je sais pas, là. Mais on se disait... Mais c'est parce qu'on se disait, c'est incroyable. Moi, je suis allée à la nuit de la poésie et là, je lis l'anthologie de Guy Sylvestre dans mon cours de poésie 102 et mon Dieu que c'est plate parce qu'il n'y a pas tous ces poètes fantastiques comme Louis Geoffroy et...
Mais avant ça, ils avaient Monseigneur Camille Roy, c'est pire.
C'est ça. Et là, on se disait, bon, c'est terrible. Tu sais, c'est vraiment décalé là, par rapport à la réalité. Donc, l'anthologie, je pense qu'une des retombées importantes, c'est ça aussi. Mais bon, ça, évidemment, il y a des travers, là. Bon, on peut contester tous ces choix-là par la suite parce qu'il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs. Mais ça, c'est une des retombées importantes. Puis il y a aussi la parole de, aussi les événements de Genoux Saint-Denis qu'on oublie souvent comme place aux poètes. C'est quand même elle là, qui a commencé ses lectures. Aujourd'hui, il y a des lectures presque à chaque semaine, des lectures de poésie, là, c'est pas ça qui manque. Mais il y a aussi Genoux Saint-Denis qui a fait, a institué un lieu à partir justement de donc tout ce qu'il y avait, c'est, bon, tout ce qui précédait la nuit de la poésie, puis tout ce qui l'a suivi aussi.
Donc, en quelque sorte, on est redevable à Jean-Pierre Mas et à Jean-Claude Labrec d'avoir structuré l'univers de la poésie. Hein? Non? Ben... Non, c'est un peu fort de café.
C'est beaucoup mais quand même. Dire, mais... Effli et toute la bibliothèque faisaient dans les années 60 un travail immense.
Christy hein? aussi, bon, qui le fait après avec le solstice là, de la poésie québécoise.
Et... C'était vraiment extraordinaire.
Il y en a eu d'autres aussi. Là,
mais une des conséquences aussi de la nuit de la poésie, c'était qu'on pouvait penser qu'un événement littéraire pouvait fonctionner. On n'a qu'à penser à la semaine de la contre-culture qu'il y avait eu à la Bibliothèque nationale en 75, en 75. Et là, il y a des gens comme William Burroughs, Allen Ginsberg, Vanier, etc., etc. Vanier qui a une courte présence dans le film dans la soirée, mais là, qui va devenir une figure majeure de cette contre-culture. Ce que dit Carole, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir de 70, et si la nuit de la poésie a eu une importance, c'est que tout à coup, on prenait conscience d'un corpus. Et c'était très important. Il y a un corpus qui s'en allait de tout bord, tout côté, qui est un corpus riche. C'est-à-dire autant, mettons, une dimension purement nationaliste, mais aussi des gens comme Geoffroy, des gens comme Denis Vanier. Ça ouvrait et ça permettait justement de prendre conscience que la littérature québécoise existait dans beaucoup de dimensions et beaucoup de types de préoccupations qui n'étaient pas simplement politiques.
Il y a Trois-Rivières. Hein, la ville devient poème, c'est formidable.
En 84-85.
Ouais. C'est après aussi.
Ouais. Gaston Bellemare avait cité à la nuit, puis il a dit publiquement que ça a été une révélation pour lui. Il s'est dit « le public peut aimer la poésie » et qu'il n'y a pas eu l'idée là, comme telle de faire le festival à Trois-Rivières, mais c'était déjà une conviction pour lui que plusieurs personnes de différentes provenances, de différentes classes sociales pouvaient écouter la poésie et même l'apprécier. Et c'est devenu Trois-Rivières après.
On peut peut-être s'arrêter là, prendre quelques questions, entamer une discussion avec notre vaste public. Oui. Alors, il faut utiliser le micro. Il doit y avoir un micro quelque part, c'est ça? Ah oui, bon. Et...
Bonjour les personnes que je connais, et bonjour M. Labrecque. J'y étais, et comme j'avais 20 ans, je suis resté jusqu'à la fin. je veux valider certains souvenirs avec vous. À quelle heure ça a terminé?
6 heures.
Et sans arrêt.
Oui.
Parfait, avec quelques pauses, puis des l'infonie qui revenait.
Ça aurait été plus grave d'interrompre que de ne pas interrompre.
Oui,
c'est
oui,
la meilleure façon de pas sauver les troubles.
C'est parfait, oui. La question des auditions que Michel Lalonde évoque là, dans une entrevue, elle dit qu'elle a dû passer une audition pour être admise.
Non.
Non.
Totalement. Bon,
d'accord. OK.
Je sais pas si elle a dit ça.
C'était dans les journaux.
Oui, je l'ai lu moi aussi.
Oui, d'accord. Bon,
j'ai pas tout à fait compris ça, mais quand on avait été voir Michel Lalonde... On lui a demandé de faire « Speak Quiet ». Elle n'a pas voulu. Elle a dit « C'est un vieux texte, tu peux pas faire ça.
Ah, » d'accord.
« Ben non, c'est important. » Puis on tourne ça dans une mentalité d'archiviste. Là. Si on voudrait archiver ce texte-là avec toi. Et puis on ne l'a pas encore. Là, on l'a. Ah oui, donc. Je passais pas loin de chez elle. J'arrêtais. J'allais la voir. Puis là, elle m'a négocié. Elle me dit « Ouais, correct. » Il m'a fait Speak Quiet, il va me donner un autre temps pour faire un nouveau texte, certainement, comme je l'ai dit. Donc, elle a fait Panouret de l'âme
avec, les
avec Michel Rossignol, Michel Garneau et Michel Allon. Donc, elle luttait, elle ne voulait pas le faire.
D'accord. Déjà, c'était très bien. D'accord, c'était une question comme ça.
En termes de ça, les auditions faisaient
beaucoup. Est-ce que vous avez eu beaucoup de refus de personnes qui n'ont pas répondu positivement à votre demande?
Il y a Van Skendel, qui ne voulait pas, mais qui a demandé pour aller sur scène. Il y a aussi Giguère, qui était favorable à l'événement, mais il dit « Moi, je ne suis pas capable de lire en public. » Et c'est la raison pour laquelle il y a Pauline Julien,
ah, oui,
qui dit un texte de Giguère qui était présent dans la salle, et Langevin, qui donnait des spectacles et qui ne pouvait pas être là. Et on trouvait important d'avoir un poème de Giguère et de Langevin. Et c'est comme ça que Pauline est dans... Et Pauline était aussi dans Poèmes et chansons de la Résistance.
Oui, bien, d'accord. Est-ce que j'invente ça où il y avait un groupe d'étudiants du Vieux-Montréal qui sont venus lire des poèmes?
En 90?
Ah, c'est en 90?
Oui, c'est en 90.
Je les ai sortis de scène.
Ah. Oui, c'est la gang de Gaz Moutarde.
Oui. Oh, d'accord. Ouais. OK.
Bon, d'accord, pas pour des raisons donc, poétiques.
Intéressant, okay. Vous mêlez les deux nuits, là, c'est le fun.
Ben oui, oui, c'est bon.
J'ai aussi sorti mais Michel Van Skendel.
C'était une nuit blanche, hein? Oui. J'ai un souvenir étrange. À 6 heures du matin, je ne sais pas si vous en rappelez, qui est monté sur la scène chanter?
Moi, j'étais couché.
Il y a 3 ou 4 jeunes hommes qui sont montés sur la scène pour chanter l'International en levant le poing pendant que les gens sortaient. D'après moi, ça fait un portrait d'époque, justement, 1970. Pour moi, ce n'est pas un événement littéraire, c'est un événement de révolution culturelle globale. Le politique en fait partie, la poésie en fait partie aussi, mais ce que j'ai reçu à ce moment-là, c'est la même chose que plein d'autres événements de l'époque, l'hostie show, et autres. Nous, on était portés là par un vent qui malheureusement c'était la fin de la révolution culturelle, mais c'était le même vent là qui fait que le bouche à oreille a été si rapide.
C'est pour ça, André, que je parlais tantôt de Raoul Duguay, la dimension spectacle, ou de Claude Péloquin qui avait participé, ouais, à l'hostie show, bon, tout ça par l'écriture de Lindbergh. C'est que ce qui était bien dans ce 2 ans, 68, hein, l'hostie show c'est 68, donc de 68 à 70, ce qui était bien, c'est que il y avait, on ne peut pas parler de confusion, mais on peut certainement parler de cette volonté de participer à ce qui se faisait. Et on pouvait même interpréter le show l'hostie de show, Robert Charlebois, on sait qu'il n'est pas particulièrement politisé, disons, hein, au premier abord. Enfin, ça nous paraissait politique. Hein? Cette utilisation, bon, déjà avec le Cassé, avec Yvon Deschamps, avec Michel Tremblay, avec Charlebois, etc., ça participait d'une identité. Et que Raoul Duguay soit là, que tu vois, on faisait des liens, à la limite même, qui n'existaient pas, mais on créait les liens dans notre tête entre, par exemple, le Sticcio et...
On les mettait tous ensemble, voilà. Puis vous avez fait ça, dans
c'est
le fond.
Ça. Et c'est pour ça,
ça,
que
ça c'est le nœud de l'événement.
Et c'est pour ça qu'il serait intéressant de sortir la nuit de la poésie de la dimension politique avec un petit P, comme je le disais, tout et de fait. Le mettre avec un grand P, hein, oui. C'est-à-dire oui, de oui. Participation globale à une énergie de transformation, ce qui est beaucoup plus, à mon avis.
Tout à fait, très bien. D'ailleurs, puis au plan littéraire, il y a plusieurs courants littéraires qui sont représentés.
Oui,
hein, l'automatisme, le surréalisme, la poésie du pays, la poésie politique, l'hexagone, le formalisme. Donc, nous, on était envahis par tout ça.
Bon, on a ça, quand je parlais de l'anthologie de Maillot-Neveu, j'en reviens là-dessus, on a ça dans la première, première édition. C'est vraiment ça. Ça a été éliminé par la suite là, pour plusieurs raisons, mais on a ce tableau de ce que c'est une première fois qui est quand même assez bien fait, là, de toutes ces tendances qu'on a vues pendant la nuit de la poésie. Parce que, comme tu dis, on a assisté à toutes ces différentes lectures, ces différents courants dont on a retenu peut-être, l'aspect qu'on voulait bien retenir, mais il y avait tout ça qui était déjà là, qui était déjà présent et qui donnait vraiment un tableau de ce qu'allait être la poésie durant les 20-25 prochaines années. Tout était là déjà.
Il y a une anthologie qu'il faudrait ajouter, c'est celle de Guy Robert.
Oui.
Poésie actuelle.
Oui, ça, là, je la connais.
Avant 1970, d'après moi.
Oui, avant.
Oui. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que... puis on avait plusieurs là, des personnes présentes à la nuit de la poésie. Puis il y avait un texte de réflexion sur la poésie qui précédait leur poème dans cette anthologie-là. Une première...
L'anthologie se terminait par Claude Péloquin, d'ailleurs.
Oui, d'accord. Puis il y avait Gauvreau, puis il y avait Anne Hébert, etc. Merci.
Poème Gastribig de Claude Gauvreau.
D'autres questions? Non?
Juste ajouter une chose. Il y a Cire et puis Leblanc, je vois, tu as des archives de l'âme, c'est ça, qui est un document extraordinaire sur l'événement et la nuit de la poésie et tout ça. Une chose dont on était conscient, Jean-Claude et moi, bon, c'est que, je vous le dis, on a maîtrisé cinématographiquement, d'abord, on a organisé la nuit, on l'a organisé pour la tournée, ça... On l'a maîtrisé. Comment la tournée, si on a maîtrisé ça, ce que c'est devenu, ça nous a complètement échappé, ça nous a dépassé. D'ailleurs, quand le film a été terminé, on avait conscience qu'on avait fait quelque chose au-delà de la littérature, qu'on avait attrapé, sans que ça ait été nos intentions, un moment de grâce et d'explosion de notre société. Mais c'est pas nous autres qui avions écrit les textes. On avait eu, si vous voulez, la chance d'avoir été là, de l'avoir capté. Ça, on était très conscients de ça. Mais je dois vous dire que quand le film est sorti, il n'y a personne qui en voulait. Radio-Canada l'avait refusé. Et moi, je pense que c'est quand même assez incroyable que l'ONF ait laissé sortir ce film-là. Il y a Speak White, entre autres. Il y a le poème de Godin. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de censure. C'est qu'on censure, on est au coton. On censure l'Acadie. On censure le film de Gilles Groux, etc. Pourquoi qu'on laisse sortir ce film-là? Moi, j'ai une interprétation. On s'est dit, il n'y a personne qui va regarder ça.
Ou peut-être qu'eux-mêmes ne l'ont pas regardé.
Et Jean-Claude et moi, parce que tu parlais de politique tantôt, et je vais répondre à ta question, il y a trois moments qu'on avait sur pellicule où, entre autres, il y a Michel Beaulieu qui dédiait son texte à Valérie Gagnon. Là, on s'est dit, on est au National Film Board of Canada. On vient de faire un film sur la poésie. Jean-Claude et moi, on s'est assis, puis on s'est fait une stratégie. Hein. En politique, c'est comme en amour, il faut laisser une porte de sortie à l'autre. Alors, notre dossier par rapport à l'ONF, c'était, on n'a pas mis les poèmes qui sont dédiés à Vallière et Gagnon. Parce que Jean-Claude et moi, on trouvait que c'était plus important d'avoir Gauvreau. Moi, je suis très d'accord avec toi. D'ailleurs, la fameuse phrase que dit Gauvreau, je la trouve, je la sais par cœur, elle est merveilleuse. Son dernier poème, il prend son texte, il dit « Il me reste un dernier poème et je le lirai en dépit de certains éléments dans cette salle que j'assimilerai à de la raclure de poèmes. » il fait un lapsus de poubelle mini-hitlérienne. Hein? Alors, ça, Speak White, on ne cédait pas. Gauvreau, on ne cédait pas. Notre bargaining power, c'était le poème de Godin, qui est une série d'injures, et il y avait, à mon avis, un autre texte de Godin, beaucoup mieux poétiquement, quant à moi, des cantouques qu'on avait enregistrés, et là, on avait dit à Gérard, écoute, acceptes-tu qu'on a fait exprès, ça c'est un vieux truc de Gilles Carle qui m'avait donné, quand il faisait des commerciaux, il y a plein de monde qui gagne de l'argent, il fallait qu'il change quelque chose. Alors, il montait le film comme il faut, que ce soit pour le fromage Kraft, n'importe quoi, puis il ajoutait une erreur volontairement. Et là, on disait, mais c'est pas bon, ça! Puis là, il engueulait son monteur, qui avait volontairement mis l'erreur, et puis tout le monde était content, puis il faisait exactement le film qu'il voulait. Nous, on est dit, on a fait exprès pour le mettre celui-là, pour le remplacer par un autre, et là, on avait, si vous voulez, on pouvait se défendre. Hein? On n'avait pas mis...
Créer une diversion.
Ah, je me souviens, on était ensemble, le top brass de l'ONF regarde ça, on n'est pas là, puis ils nous disent, gardez-le comme ça, changez rien. On ne comprenait plus rien, mais après, je me suis dit, c'est ça, c'est que Radio-Can avait refusé, et pour sortir le film, c'est quand même un an après, c'est grâce à Ronan Smith au Verdi. Et là, c'est reparti. Mais ça, on ne savait rien de ça. Mais quand même, on savait que ce qui était là, qu'on le regarde ou pas, que nous autres, on avait fait notre bout de chemin pour capter quelque chose qu'on n'avait pas organisé, qu'on n'avait pas voulu décider, mais on avait quelque chose qui était un Québec privilégié ce soir-là, si on était conscients.
Ce qui est la force du cinéma direct. Dans l'archive de l'âme de Luxir puis Carl Leblanc, où il y a beaucoup d'interviews, notamment avec vous deux, on a beaucoup de projections vers l'avenir. On nous dit « Ah, quelques mois plus tard, il va mourir. Quelques mois plus tard, il y a la crise d'octobre. Puis il y a ci qui va arriver. Puis il y a ça. » Mais il n'y en a pas beaucoup par en arrière, par exemple. On a l'impression que vous arrivez à un moment où il y a un fruit mûr à cueillir. Puis que la force du cinéma direct, c'est justement d'être là au moment où, juste un petit peu après, le fruit serait peut-être trop mûr. Puis juste un petit peu avant, il ne serait pas tout à fait. Mais c'est juste au bon moment. Et alors qu'à la différence du cinéma direct, vous n'êtes pas là tout à fait par hasard, c'est vous qui avez tiré les ficelles de bout en bout.
Ça, grâce à Jean-Claude. C'est toi qui en as le mérite.
On était là. On était là. On était heureux d'être là, d'ailleurs.
Puis il y a d'autres fois qu'on y a pas été. Cette fois-là, on a eu la chance d'être là.
Et puis, il n'est pas monté, le film n'est pas monté comme était l'événement. Hein, il y avait l'événement qui, des fois, était tout croche, des fois, c'était extraordinaire, des fois, c'était ennuyant, des fois, il y avait des moments. Alors, c'est ça. C'est l'événement. On a pris le film et on a restructuré totalement différent, comme par exemple, Speak White arrive à la fin du film, pour une bonne raison. T'sais. Donc, il y avait à réussir un film, puis il y avait aussi. À réussir l'événement. Donc, on a joué sur les deux tableaux.
L'ordre du film ne correspond pas à la chronologie de l'événement. Puis il y a une chose qu'on a voulu respecter aussi, c'est de donner la chance à chaque poème. Ça a l'air très peu modeste, là, ce que je dis, mais j'ai regardé le film dimanche, je dis, ouais, j'aime beaucoup comment on les a placés. Parce qu'il y en a qui nous ont dit, vous n'avez pas fait un film, vous avez juste mis une caméra en gros blanc sur des poètes, c'est pas un film, ça. Je trouve que le montage, moi, je suis très content de l'ordre. Je vais vous donner un exemple. Il y a Jean-Guy Pilon qui dit un poème très fédéraliste, connu à l'époque, connoté. D'ailleurs, Duff Roblin, qui se présente à la succession de Diefenbaker, en citait des passages par cœur, parce que Duff Roblin était premier ministre du Manitoba, conservateur, et parlait un français excellent. On aurait pu monter ça dans un esprit de polémique, le mettre, par exemple, et à l'époque, on aurait eu les connotations, mais plus aujourd'hui, mais on aurait pu mettre ça avec Godin. Hein? On ne l'a pas fait. On n'a pas voulu non plus mettre Godin juste avant Speak White. Parce que là, on ne voulait pas faire du spectaculaire. On voulait que chaque poème
ait sa chance maximale d'écoute des gens qui regardent le film. Et dans l'ordre, il y a, Godin. Ensuite, c'est Georges Dor qui fait une transition. À,
c'est
à
son lancement de
l'air. Oui, c'est ça. En Miron, t'aimerais ça l'Hexagone vendre de même. Je sais que vous avez mis une caisse de bière. Il dit ça de bien. Bon. Et après ça, c'est Michel Lalonde. Alors, son vraiment... Alors, il y a... On a monté ça comme un seul poème, ce film-là. Et j'aime beaucoup le passage de l'un à l'autre. Et une gageure qu'on avait prise, c'est que on s'est dit, on va mettre Gauvreau en partant. Parce que, écoutez, sortir un film sans poésie, là, c'est encore risqué aujourd'hui. Imaginez-vous à l'époque. On s'est dit, excusez le mot, fuck off. On met Gauvreau en partant. Puis ceux qui n'aimeront pas ça, ils sortiront. Mais ceux qui vont, entre guillemets, résister à Gauvreau, on est sûr qu'ils vont écouter jusqu'à la fin. C'était la gageure qu'on a prise. Puis je pense que c'était le bon pari à faire aussi.
Hey, on gage à fort, hein?
Qu'est-ce que c'est la gageure aujourd'hui à prendre pour une nuit de la poésie à venir, par exemple celle qui va avoir lieu samedi? Qu'est-ce qu'on espère maintenant d'une nuit de la poésie? Qu'est-ce que ça signifie une soirée comme celle-là?
Ce que ça signifie, c'est d'attirer le plus de gens possible, mais c'est toujours la même chose avec la poésie. La poésie, c'est la résistance. On peut pas s'attendre à faire des salles pleines avec la poésie. La poésie, c'est le langage. Donc, c'est initier les gens à la poésie, c'est les inviter à partager des poèmes. Bon, c'est les attirer. C'est la même chose. Pour ma génération, on était attirés par la nuit de la poésie parce qu'on voulait, on était curieux, on voulait apprendre, on voulait savoir, on était en amour avec certaines figures cultes de la poésie, donc ça nous a amené à lire cette nuit-là puis à découvrir d'autres poètes. Donc, je pense que c'est toujours les mêmes buts parce que la poésie, ça peut pas, si ça devient spectacle, trop spectacle, bien c'est plus de la poésie, c'est autre chose, c'est le pari de la poésie, c'est toujours de résister. Puis la poésie, c'est toujours dans la marge, là. Donc, on peut se plaindre parfois. On dit, bon, c'est dur pour la poésie parce que c'est difficile de faire passer... parce que c'est des livres aussi, la poésie, hein, c'est pas juste la parole, c'est pas juste l'oralité, c'est aussi vendre des livres, c'est aussi diffuser des livres. Donc, c'est toujours ce pari-là, puis c'est pas un pari facile, donc, parce que on est toujours dans la marge, totalement. Puis quelqu'un qui dirait qu'on n'est pas dans la marge, bon, il y a des exceptions. Des fois, il y a des poètes là qui vont rejoindre. Chez nous, il y a des exceptions. Il y a une exception au Miron. Il y a d'autres exceptions comme ça. Giguère, Paul-Marie Lapointe, puis même encore, il y a plein d'étudiants qui connaissent pas Giguère, Paul-Marie Lapointe, même des professeurs de cégep, je suis méchante là, mais qui savent même pas c'est qui et qui préfèrent enseigner la chanson qu'enseigner la poésie. Hein, il y a toujours du travail à faire. Donc, il faut toujours être sur le front et puis, essayer d'attirer les gens puis de leur, qu'ils soient en mesure de partager, là, cette parole-là puis les mondes différents de tous les poètes parce qu'il y a c'est des mondes tellement sensibles et différents et particuliers et singuliers. Que chacun peut y trouver son monde, là. Donc, c'est ça le pari de la nuit, mais c'est toujours un gros pari parce que c'est pas le même contexte. Et le contexte d'aujourd'hui, avant, il était difficile pour toutes sortes de raisons, à cause d'autres raisons politiques, à cause de l'enfermement, à cause d'une forme de censure, tout ça. Puis aujourd'hui, ben c'est tout est possible. On a l'impression que tout est possible. Hein, on peut tout faire, donc c'est extraordinaire. Tout est accessible, mais c'est pas vrai que tout est accessible parce que l'accessibilité, ça demande quand même... il faut savoir lire, comprendre, être initié. Donc, c'est un autre piège, là. Il y a toujours des pièges. Donc, c'est ça la poésie.
Je sais que c'est dans les notes de Carole, parce que j'ai regardé par-dessus son épaule tantôt, mais... Mais on oublie la fondation, on parlait de 68 tantôt, on oublie la fondation des cégeps en 68. Et si la poésie québécoise dans les années 70 a eu autant de répercussions, a influencé autant de gens, je ne sais pas ce qu'on enseignait comme poésie à l'université en 70, mais dans les cégeps, on enseignait la poésie qu'on a vue justement à la nuit de la poésie. Et peut-être que le film La Nuit de la Poésie a peut-être été le film le plus vu au Québec par combien de milliers d'étudiants dans tous les cégeps.
Regardez mes notes.
Hein, c'est pas pire, hein? Je suis très vite. Oh, j'ai oublié de celle-là. Et donc, c'est vrai que la fondation des cégeps est extrêmement importante. Il y a aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, j'ai parlé de divertissement tantôt, il ne faut pas oublier, et ça, c'est un contexte qui a beaucoup changé par rapport aux grands médias, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient journalistiques, je veux dire, ou qu'ils soient télévisuels. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous vous rappelez, non, vous ne vous rappelez pas parce que vous étiez même pas né, Jean-Pierre qui va s'en rappeler. Bon dimanche avec Reine Marlowe, tu te rappelles de dimanche matin, émission quétaine parfaite, eh bien, à l'interviewer continuellement Raoul Duguay, Claude Péloquin, etc. Ce qui fait que ça passait dans le public. Aujourd'hui, va demander à un réalisateur de passer l'équivalent de l'époque, ça peut pas passer. Donc, il y avait une accessibilité, effectivement, par les cégeps, par la télévision, c'était extrêmement important. La littérature n'était pas « way out » de la réalité, elle était dans la réalité, ou dans les réalités, plutôt. Petite anecdote, je termine là-dessus. Il y a 2 ans, j'ai vendu ma maison, j'ai déménagé, etc., et j'ai été obligé de faire plein de ménages. Et j'ai retrouvé, parce que je l'avais conservé, le Devoir, le numéro du Devoir, l'assassinat de John Lennon, donc 1980. 21 pages de littéraire en 1980. 21 pages. Hugues, tu t'ennuies-tu? 21 pages de littéraire avec, à la une du cahier littéraire, une entrevue, et c'était le numéro, c'était France Théoret. Aujourd'hui, France Théoret, oubliez ça. Donc, il y avait une façon d'aller chercher, que ce soit par Reine Malo ou par Le Devoir, peu importe, il y avait un moyen d'accéder à la littérature, et c'était très important, et ça a permis à la Nuit de la Poésie de fonctionner avec 6000 personnes qui ont passé là, qui sont passées là toute la nuit, tu sais, au fur et à mesure.
Alors, bonne chance à la nuit. Moi, je suis très content qu'elle ait lieu, puis je souhaite bonne chance à l'équipe. Je pense qu'il y a des membres ici, là. Vous savez pas dans quoi vous embarquez. Mais c'est merveilleux. C'est fou. Et c'est formidable. Cette année, je vais y assister, puis je peux juste la regarder, là. Je vais pas m'occuper de caméra. Puis des gens dans l'arrière-scène, fait que c'est formidable. Merci de ce beau cadeau.
Mais il y a quelque chose, quand même, entre une soirée de poésie puis une nuit de la poésie, l'idée qu'on veuille refaire une nuit de la poésie puis qu'on le refasse périodiquement, c'est quand même, ça marque un temps fort, quelque chose qu'on tente pas de recréer forcément, mais on a quelque chose de cette force-là qu'on recherche, peut-être une façon de suppléer à la vacuité environnante en termes de couverture littéraire. C'est vrai que il reste plus guère que Le Devoir qui fait quelques pages chaque semaine ou à peu près.
Quand même dans le cadre justement du marché de la poésie. Oui. Donc, le marché de la poésie, bon, je vais sortir mon boniment, là, qui est l'activité phare de la Maison de la Poésie. C'est l'occasion justement, pour le marché de. Je dirais pas de faire le point, là, mais à l'origine, cette nuit-là devait avoir lieu dans le contexte des RIDM, donc des rendez-vous internationaux de documentaires, mais pour toutes sortes de raisons, cette nuit-là n'a pas eu lieu. Donc, c'était pour souligner les 40 ans aussi de la Nuit de la Poésie. Donc, il y a quand même une date anniversaire. Donc, c'est pour ça qu'elle a lieu, entre autres. C'est des raisons aussi historiques. Et comme la Maison de la Poésie a quand même une mission, donc une des missions, justement, c'est de mettre la poésie sur la place, puis aussi de rappeler des moments forts dans l'histoire de la poésie. Et la Nuit de la Poésie 70, évidemment, c'est un moment fort, comme tout le monde le sait. Voilà.
Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier Jean-Claude Labrec, Jean-Pierre Masse, Carole David et Jean-Marc Téjean d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter un excellent marché de la poésie. Nous y serons tous. Mon nom est Jean-François Nadeau. Merci. Bonne soirée.
Merci aux gens là, qui ont pensé commémorer cet anniversaire. Pas pour Jean-Claude et moi, mais merci pour le film.
C'est vrai.
Merci, Phil.
Oui. Ça m'a touché que 40 ans après, on y pense et qu'on le souligne. Merci beaucoup.